Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ah non, je vous en prie, Thérèse.
On ne sait que choisir.
C'est vrai qu'il y a l'embarras du choix.
Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais je me suis déjà retrouvé pendant 10 minutes à essayer de choisir ma prochaine série sur Netflix. Et je me suis dit que la meilleure façon de faire bugger quelqu'un, c'était bien de lui demander « C'est quoi ta série préférée sur cette plateforme ?» C'est vrai qu'en 10 ans, Netflix a connu une progression impressionnante, passant de 24 millions d'abonnés en 2011 à plus de 200 millions aujourd'hui, passionnés de séries, de films et même de documentaires.
I love the danger, that adrenaline and that excitement.
They have crashed! They've gone into each other!
I'll do anything I can to get the best results possible. I'm not worried about dying.
Mais la question se pose, Netflix en a-t-il encore sous la pédale ? Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos. Aujourd'hui, on va revenir sur la chute de Netflix, près de 50 milliards de capitalisation perdue en une journée, et ce n'est pas du cinéma. La légende raconte que Reed Hastings, cofondateur de Netflix, a eu l'idée de créer un service de location de DVD par abonnement parce qu'il avait été mis à l'amende pour ne pas avoir rendu une cassette à son vidéoclub. C'était en 1997. Le groupe se lance donc d'abord avec plus ou moins de réussite dans la location de DVD, avant de faire le grand saut en 2007 avec ce qu'on appelle la SVOD, la vidéo à la demande par abonnement. De 24 millions d'abonnés en 2011, le groupe passe à 54 millions en 2014. Le 100 millionième abonné est enregistré en 2017. Il lui faudra moins de 3 ans pour en doubler le nombre. L'action du groupe va suivre la croissance exponentielle des abonnés. $25 en 2011, 50 en 2014, $200 en 2017. Jusqu'à son record, près de $700 l'action en novembre 2021.
Money, 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 money.
It's a powerful tool, but it's no accident so many of us are struggling with debt. It's how the whole game was designed.
Jusqu'à ce jour mémorable, le 20 janvier 2022. Bonjour Nicolas Madeleine.
Bonjour Pierrick.
Vous êtes chef du service adjoint du service high-tech média des Échos. Le 20 janvier, l'action Netflix va perdre 22% de sa valeur. Que s'est-il passé dans la tête des marchés ?
Alors, Netflix a annoncé qu'il avait 222 millions d'abonnés dans le monde, qu'il avait fait une croissance assez correcte sur le dernier trimestre, puisqu'il avait ajouté 8 millions d'abonnés, 8,3. Mais par contre, il a dit qu'il s'attendait à une croissance faible sur le premier trimestre, donc sur la janvier, février, mars, et qu'il attendait seulement une prise de 2,5 millions d'abonnés, ce qui est faible. Et en plus, la direction a pas donné beaucoup d'explications et puis a même laissé part, peut-être un peu involontairement, d'une certaine perplexité face au phénomène, pourquoi ils étaient un petit peu moins confiants que d'habitude. Reed Hastings, le patron, a dit qu'il restait calme, qu'il tentait de comprendre, en disant le marché est peut-être un petit peu plus petit que nous le pensions, même s'ils ont laissé passer le message que le marché restait vaste et que la croissance à long terme devrait bien se tenir, ça a inquiété les marchés à un moment. Il y avait la publication des résultats de Facebook où il y a eu plusieurs valeurs qui ont profité des périodes de confinement où les gens restaient à la maison et ont utilisé beaucoup leurs ordinateurs. Et ces valeurs-là étaient à la baisse. Donc Netflix a été pris dans ce tourbillon vers le fond. Et donc ils ont perdu effectivement 20% cette journée-là. Et c'est vrai, en plus, alors qu'il y avait un très beau programme de nouveautés pendant le dernier trimestre, avec notamment Don't Look Up. Pour le premier trimestre, la société a reconnu qu'il y avait moins de choses qui devaient driver des abonnements. Ils ont parlé de Bridgerton qui arrivera seulement en mars. Donc, les marchés se sont inquiétés pour ça.
Ouais, il y a eu des prises de bénéfices très fortes. Hein. 49 milliards de dollars effacés en une seule séance. Alors, Nicolas, Netflix pèse encore 180 milliards de dollars en bourse. Ça fait presque 160 milliards d'euros. Quelques chiffres, hein, je suis désolé. Ça fait 12 fois la valeur de Vivendi, la maison mère de Canal+, mais aussi d'Avast, de Gameloft, de Prisma, d'Editis, entre autres. Et pour vous donner une autre idée, c'est aussi 40 fois la valeur de M6 et de TF1 réunis. Netflix, ça reste quand même un géant du divertissement mondial.
Ah bah oui, je pense qu'il y a très peu de sociétés qui, comme Netflix, ont bouleversé leur secteur en si peu de temps. En 10 ans, Netflix a imposé la télévision à la demande. Et la télévision linéaire, le contraire de à la demande, baisse de façon continue et presque irrémédiable, même s'il y a des périodes de résistance, par exemple pendant les confinements. Donc tous les concurrents de Netflix, comme Disney, comme Warner, se sont mis à faire la même chose, c'est-à-dire de la vidéo à la demande par abonnement. Donc, preuve que le modèle est incroyablement efficace. Et puis enfin, Netflix, c'est 222 millions d'abonnés de par le monde. C'est, Disney vient de publier ses résultats, ils en ont 130 millions, donc c'est quasiment 100 millions de plus. Et puis, c'est de la production dans d'autres pays que les États-Unis. C'est dans l'histoire de l'entertainment. Netflix est le premier studio qui ne produit pas que dans sa langue d'origine. Parmi les plus grands succès récents, il y a Squid Games qui vient de Corée du Sud. Il y a La Casa de Papel d'Espagne. Il y a Lupin qui a un très beau succès qui vient de France. C'est un succès absolument remarquable. Et puis, il y a une chose qui est vraiment intéressante qui suit les modèles économiques des entreprises, c'est que Netflix a prouvé que son modèle marché, finalement, étant donné la façon dont il comptabilise ses achats de programmes, l'indicateur le plus révélateur chez Netflix, c'est ce qu'on appelle les free cash flow, donc les liquidités vraiment dégagées par l'entreprise à la fin d'une année. Et en 2021, donc Netflix a consommé 159 millions de dollars, mais il a promis que en 2022, il dégagerait des cash flows. Or, la société donc de Reed Hastings a consommé jusqu'à 4 milliards de cash flow chaque année. Beaucoup de gens ne croyaient pas au modèle, ne croyaient pas que la multiplication de prises d'abonnement pas chères compenserait le coût des programmes et que la société donc serait obligée ad vitam de lever de l'argent sur les marchés. Ils l'ont fait récemment principalement en dette pour pouvoir continuer à financer le modèle. Et ce qu'ils ont prouvé pendant un trimestre de 2021 et qui semble se confirmer pour l'ensemble de 2022, c'est qu'ils ont plus besoin d'avoir recours aux marchés financiers pour marcher sur leurs deux jambes et que ils vont dégager du cash flow. Et du coup, une fois que vous commencez à dégager du cash flow, comme ça, vous pouvez ajuster vos prix, ajuster vos coûts de programme et là, commencer à vous concentrer sur les revenus et le résultat d'exploitation que vous dégagez. Et ils en sont là. Jamais, économiquement, la boîte ne s'est mieux portée avec 30 milliards de dollars de chiffre d'affaires et un résultat d'exploitation de 6,2 milliards. Et donc, en 2022, ce dégagement de liquidités qui les libère de la dépendance au marché.
Ouais, ça pourrait faire en sorte que l'histoire d'amour entre Netflix et les marchés redémarre. Hein. Ça ressemble à un film de Noël presque sur Netflix, il y en a plein. Le groupe a aussi augmenté ses tarifs. Alors ça, c'est pas toujours bien perçu par ses abonnés. Il est à un tournant de son histoire de ce point de vue-là, Nicolas ?
Oui, c'est sûr que le mot d'ordre pour l'année 2022, c'est de au moins compter autant sur les hausses de tarifs que sur la croissance des abonnements. Il y a pas mal de marchés sur lesquels est Netflix qui commencent à approcher la maturité. Et donc, c'est plus difficile de faire de la croissance. Netflix, ils existent sur le modèle de la vidéo à la demande par abonnement depuis un petit peu plus de 10 ans maintenant. Et toute sa croissance, ça s'est fait sur ce qu'on appelle le cord cutting dans le jargon, et qui est le fait que les gens ont transformé leur abonnement à la télévision payante traditionnelle qui coûte très cher. Alors c'est vrai surtout aux États-Unis, mais c'est un peu vrai partout aussi. Par exemple, en France, on constate que l'effet de Netflix a été d'abaisser le prix de Canal+ pour pouvoir s'ajuster. Donc ce terrain en fait de la conquête d'abonnés parce que les gens n'étaient plus satisfaits par la télévision payante. Donc ça c'est sans doute terminé. Maintenant, il faut aller conquérir. Et puis il y a aussi maintenant la concurrence des autres services comme Disney+, mais aussi il y a HBO Max qui arrive et puis il y a Amazon Prime. Et pour la première fois, Netflix a reconnu que la concurrence pouvait avoir un effet. La messe n'est pas encore dite sur Netflix, même si c'est incontestablement sur les marchés matures plus difficile de faire de la croissance élevée.
$142 millions d'heures visionnées dans les 28 premiers jours sur Netflix. Squid Game, la série coréenne, événement de la fin d'année. La série originale la plus regardée sur Netflix selon Complex, devant les chroniques de Bridgerton, Lupin et The Witcher. Emily in Paris pointant à la 11e place.
Qu'est-ce que tu as ?
Quand je suis allée dire goodbye à Gabriel, ça s'est transformé en la plus incroyable nuit de sexe que j'ai jamais eue.
It's crazy !
No !
Oh, no.
Et oui, il y en a pour tous les goûts. Netflix a révolutionné la façon dont les terriens regardent la télé, avec un succès planétaire. Le groupe étant présent dans 190 pays, à l'exception notable de la Corée du Nord, la Crimée, la Syrie et la Chine. Mais quels sont les secrets de sa réussite? Et avec plus de 200 millions d'abonnés, son modèle n'est-il pas arrivé en fin de course? J'ai appelé au téléphone Julien Pillot. Il est enseignant-chercheur en économie à INSEEC Grande École. Bonjour Julien.
Bonjour Pierrick.
Ça fait plaisir de vous retrouver dans la story. Je ne vous ai pas dérangé en plein visionnage du Jeu de la Dame sur Netflix. Vous venez de sortir de plusieurs heures de cours. D'abord, comment expliquer ce phénoménal succès de Netflix en à peine 10 ans sur le marché de la vidéo à la demande?
Oh, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent expliquer en fait ce succès phénoménal de Netflix. Déjà parce qu'il est le pionnier, d'une certaine façon, de la vidéo à la demande, puisqu'il a misé très tôt sur le streaming vidéo, dès 2007 en fait, ce qui en a fait un des tout premiers acteurs sur le marché américain et aussi un des tout premiers acteurs à avoir la notoriété et les capitaux nécessaires pour s'internationaliser. Et puis Netflix, c'est aussi une interface technologique très performante avec un algorithme de recommandation qui compte parmi les meilleurs du marché. Et puis on pourrait ajouter à ça aussi le fait que Netflix a su capitaliser sur des licences avec un très fort impact culturel. Ces fameuses séries qu'il faut avoir vues ou ces fameux films qu'il faut avoir vus pour pouvoir briller en société, parce qu'on va en parler. Des séries comme House of Cards, comme Orange is the New Black, etc. Tout un tas de séries qui ont été autant de phénomènes culturels et qui ont poussé tout un tas de personnes à s'intéresser à Netflix et à s'y abonner.
J'ai entendu dire qu'il y a quelque chose qui vous chiffonne.
Nous avons découvert une très grosse comète.
Oh, bravo.
Qui se dirige droit sur la Terre.
Cette comète, c'est ce qu'on appelle une tueuse de planètes.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et qu'on avise.
Ouais, c'est vrai que Netflix a montré aussi encore récemment, avec le film Don't Look Up ou avec Squid Game, sa capacité à créer l'événement avec des séries et maintenant des films.
Et maintenant des films, de plus en plus de films, tout simplement parce que Netflix, en fait, s'est construit sa notoriété par l'exploitation de films qui sont des films qui sont produits par des studios, notamment des studios hollywoodiens, qui sont des studios indépendants comme la Fox, comme Disney, comme Paramount, etc. Le problème, c'est que ces majors hollywoodiennes sont de moins en moins enclins à prêter leurs films à Netflix pour que Netflix en fasse une exploitation. Ils préfèrent désormais, qu'ils se sont constitués des plateformes de streaming propriétaires, se réserver la plupart du temps l'exclusivité de l'exploitation commerciale des œuvres qu'ils ont produites par ailleurs, tout simplement parce que ça agit comme un produit d'appel pour conquérir de nouveaux abonnés. Donc Netflix, qui a compris dès le milieu des années 2010 qu'il serait d'autant plus difficile dans les années à venir de pouvoir compter sur ce catalogue absolument gigantesque de produits cinématographiques produits par des grandes majors hollywoodiennes a commencé dès milieu des années 2010 à investir massivement dans du contenu original exclusivement dédié à sa plateforme, des séries, mais également, vous l'avez dit, Pierrick, de plus en plus de films, des films comme Don't Look Up que vous avez pu citer, ou un film comme Red Notice, hein, qui a un petit peu défrayé la chronique dernièrement, parce que c'est un film sur lequel Netflix a vraiment engagé un énorme budget, 200 millions de dollars en frais de marketing pour la production de ce film, avec des acteurs comme Dwayne Johnson ou Gal Gadot, par exemple.
Vous cherchez un objet en particulier ou vous jetez un petit coup d'œil?
Je viens vous arrêter.
Oh non, mec, sérieux, tu plombes l'ambiance.
Vous voulez vraiment m'arrêter? Arrêtez-moi.
Alors Netflix a prévenu qu'il allait conquérir moins d'abonnés. On en a parlé avec Nicolas Madeleine. Hein. Le cours a souffert. Le marché avait aussi sanctionné Spotify récemment après l'annonce de ses résultats en parallèle de l'affaire Neil Young, Joe Rogan. Est-ce que ce modèle de l'abonnement est à bout de souffle?
Non, je dirais pas que le modèle d'abonnement est à bout de souffle. En fait, je dirais surtout qu'il ne faut pas surinterpréter ce qui se passe sur les marchés financiers actuellement. Les marchés financiers sont en train finalement d'opérer une correction, comme ça arrive très régulièrement sur les marchés financiers, tout simplement parce qu'il y a un adage en finance qui est assez connu, qui dit que finalement les arbres ne peuvent pas pousser jusqu'au ciel. Et par le jeu en fait du quantitative easing qui a été très largement actionné par les banques centrales à la suite de la crise des subprimes de 2008 et qui s'est prolongée pendant quasiment toutes les années 2010. Plus les injections massives de liquidités qu'il y a eu un petit peu partout dans le globe suite à la crise de la Covid, on s'est retrouvé avec des marchés financiers qui sont surliquides et avec certains investisseurs qui ont investi massivement sur des valeurs plus ou moins risquées. Et là, on arrive un petit peu au bout de cette séquence-là où certaines entreprises commencent à publier des résultats qui sont pas toujours conformes avec les attentes du marché. Et finalement, c'est un signal envoyé aux investisseurs pour qu'ils prennent leurs bénéfices. Et donc, le meilleur moyen pour les investisseurs de prendre leurs bénéfices, c'est de retirer leurs billes au moment où la cotation est maximale. Et comme beaucoup d'investisseurs jouent la même partition au même moment, cela amène des décrochages assez spectaculaires sur les marchés, et notamment Netflix, qui a perdu 25% de capitalisation en l'espace d'un mois. Bon, on comprend bien que ce décrochage de 25% n'est absolument pas connecté avec la situation réelle de Netflix, qui, s'il a présenté des résultats qui sont un petit peu en deçà des attentes du marché, sont quand même des résultats qui sont profitables. Netflix gagne l'argent, il a gagné un peu plus de 5 milliards de bénéfices nets l'an dernier, et puis Netflix continue à gagner des abonnés, alors peut-être un petit peu moins que ce qui était attendu, mais Netflix a quand même gagné plus de 18 millions d'abonnés sur un an glissant. Bon, c'est quand même une entreprise qui se porte pas si mal.
Il y a tout de même une très forte augmentation attendue des coûts, hein. Vous parliez du film Red Notice qui a coûté très cher, là aussi ça va être un défi pour Netflix.
Alors, le vrai défi structurel pour Netflix, c'est effectivement la gestion des coûts, tout simplement parce que Netflix, contrairement à beaucoup de ses concurrents, notamment Amazon pour le plus illustre d'entre eux, n'est pas une entreprise aussi diversifiée. Finalement, Netflix n'a qu'une diversification. C'est un diffuseur de contenu audiovisuel, films et séries, et un producteur également, désormais qu'il a fait son intégration verticale, de films et séries originaux qu'il se réserve à sa propre discrétion. Mais des acteurs comme Amazon ou comme Disney ont d'autres cordes à leurs arcs. Amazon, c'est du e-commerce, c'est du service web, c'est du cloud. C'est tout un tas de choses qui lui permet finalement de pouvoir prétendre gagner un peu moins d'argent pendant un certain temps dans le streaming audiovisuel, attendu qu'il en gagne beaucoup par ailleurs. Pour Disney, c'est un peu pareil. Ils ont l'exploitation cinématographique, ils ont l'exploitation de leur parc à thème, ils ont le merchandising, ils ont beaucoup d'autres choses. Netflix, lui, il n'a que le streaming pour gagner sa vie. Et effectivement, il a des coûts de production de son œuvre qui vont crescendo. Des coûts technologiques déjà, parce qu'il a une offre qu'il s'agit d'héberger. D'ailleurs, il est client d'Amazon, aussi paradoxal que ça puisse paraître. Il est client de son concurrent pour l'hébergement de ses contenus. Et ses coûts d'hébergement, ses coûts technologiques, ils augmentent au fur et à mesure que le catalogue de Netflix grossit, mais également que la qualité, finalement, de restitution de ses films ou des séries en streaming augmente aussi. Plus vous allez vers du 4K, plus vous avez des appels de bande passante qui doivent être importants et prioritaires pour délivrer une bonne qualité de service, et les coûts augmentent. Par exemple, si je parle des coûts technologiques, qui sont très largement guidés par les coûts d'hébergement, bon, bah, ils étaient en 2018 de l'ordre de 1,2 milliard, ils sont quasiment de 2,3 milliards 3 ans plus tard en 2021. Donc on voit une très forte progression. Il y a des coûts marketing également qui augmentent. Les coûts marketing qui se mesurent non pas au niveau des dépenses marketing, mais la capacité de ces dépenses marketing à générer de nouveaux abonnés. Bon, ben, le coût du marketing par rapport au nombre d'abonnés que vous arrivez réellement à conquérir et à fidéliser, il a tendance également à largement augmenter. En 2018, il était aux alentours de $95. Aujourd'hui, il est de $140 pour pouvoir acquérir de nouveaux abonnés. Donc on voit bien là également une très forte progression. Et puis, on en a parlé, mais les coûts de contenu. Netflix a besoin de contenus originaux qu'on ne trouve que sur sa plateforme, et Netflix n'a pas d'autre choix aujourd'hui que de les produire lui-même. Et donc, on a des coûts de production qui n'ont fait qu'augmenter. Ils ont augmenté vraiment de façon spectaculaire ces dernières années. En 2018, ils étaient d'un peu moins de 10 milliards. Ils culminent aujourd'hui à 17 milliards 3 ans plus tard, et ils vont aller évidemment crescendo. Et là, pareil, si on les met en relation avec le nombre d'abonnés de Netflix, eh bien, on a une progression qui est assez spectaculaire, puisque ils étaient de un peu plus de $70 par abonné en 2018 et il frôle les $78-79 en 2021. Donc effectivement, la structure de coûts de Netflix augmente très fortement, plus fortement que ses revenus actuellement, et donc se pose la question de dépasser Netflix sur le long terme, de demeurer rentable.
Mais c'est intéressant ce que vous nous dites, parce qu'on peut se poser la question, est-ce que Netflix n'est pas condamné à augmenter ses prix ?
Alors, il n'est pas condamné à augmenter ses prix, mais l'augmentation des prix fait partie de son arsenal pour justement compenser l'augmentation des coûts en générant de nouvelles recettes. Donc, Netflix augmente ses prix, il le fait depuis un certain temps, il continuera de le faire, mais il ne peut pas le faire de façon démesurée dans la mesure où il subit une pression concurrentielle, notamment de Amazon Prime Video, de Disney+, de Hulu et de la plateforme de HBO, HBO Max. Donc, il a une pression concurrentielle qui l'empêche d'augmenter ses prix outre mesure. Alors, il peut essayer d'augmenter sa base d'abonnés également, mais là aussi, il y a une pression concurrentielle et pour augmenter sa base d'abonnés, il a besoin de contenu dont on a vu qu'il coûtait cher à produire en quantité et en qualité. La dernière corde à l'arc de Netflix, ce sera peut-être de trouver des zones de diversification de revenus, puisqu'il est face à une concurrence qui a l'avantage d'être diversifié, peut-être que Netflix devra accentuer sa diversification dans les prochaines années pour peut-être un petit peu moins dépendre de son cœur de métier qui est le streaming. Alors, on a vu Netflix prendre des initiatives assez intéressantes, par exemple dans le jeu vidéo, qui est un secteur qui est en pleine progression. Quel rôle Netflix pourrait jouer dans cette industrie à l'avenir ? Seul Netflix, quelque part, le sait. Ça dépendra de ce qu'ils veulent investir et dans quelle mesure ils ont envie d'aller à fond sur cette industrie. Netflix peut aussi peut-être choisir d'exploiter plus de films en salle pour que ces films puissent lui rapporter à travers les abonnements sur sa plateforme de streaming, mais également à travers les revenus générés en salle. Bref, on a tout un tas de voies de diversification qui sont possibles. On va faire un merchandising aussi autour de certains de ses produits les plus forts au niveau de l'impact culturel. Bon, tout ça, ce sont des moyens qui, mis bout à bout, pourront peut-être permettre à Netflix, tout simplement, de compenser au moins en partie l'augmentation de ses coûts. Cette augmentation de coûts dont on a vu tout à l'heure qu'elle est structurelle et inéluctable d'une certaine façon.
De Disney à Amazon, tout le monde veut devenir le nouveau Netflix. Netflix qui semble aujourd'hui impossible à rattraper sur son marché. Alors est-ce qu'on peut néanmoins lui trouver quelques faiblesses ? Eh bien nous avons tenté l'exercice.
On vient d'entendre un petit bout de votre podcast C'est dans la boîte avec Thibaut Liorat. C'était en 2019, à retrouver sur le site The Conversation. Vous demandiez alors ce qui pourrait arrêter Netflix ? Vous évoquiez déjà la hausse des coûts, notamment des programmes. Je vous sens prêt à prendre un nouveau pari, celui du rachat de Netflix.
Alors, c'est un sacré pari, effectivement. Parce que oui, on peut penser que Netflix pourrait être un candidat au rachat. Tout simplement parce que on peut peut-être se projeter dans un avenir pas si lointain où l'activité de streaming audiovisuel ne peut être rentable que si elle est couplée à d'autres activités de diversification. Et donc, effectivement, Amazon Prime Video bénéficie de la diversification d'Amazon. Disney Plus bénéficie de la diversification de Disney. Peut-être que Netflix pourrait bénéficier de la diversification d'une autre entreprise et notamment peut-être une entreprise qui pourrait venir soit du secteur de la tech, une entreprise comme Apple ou Microsoft pourrait être tout à fait des entreprises intéressées à moyen terme par le rachat d'une entreprise comme Netflix, elles en auraient les moyens en outre. Une entreprise de l'univers des télécoms pourrait également être intéressée par le rachat de Netflix. Mais en tout cas, je veux pas insulter l'avenir parce que Netflix a déjà démontré à plusieurs reprises par le passé sa capacité à pivoter de business model. Il n'est pas impossible de dire que Netflix sera de nouveau capable de trouver sa voie de diversification qui lui permettra en fait de demeurer indépendant et de rester non OPAisable par une entreprise beaucoup plus intense capitalistiquement que lui et beaucoup plus diversifiée que lui.
Merci Julien Pillot, enseignant-chercheur en économie à INSEC Grande École, et merci Nicolas Madeleine du service Hightech Média des Échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Le podcast des Échos est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts comme Podcast Addict, Castbox, Apple Podcast, Deezer ou encore Spotify. Vous pouvez même demander à Alexa de lire le dernier épisode de la story sur Amazon Music.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.